Chapitre 66. Le 23 août 2016, 21h30. Rarement il y avait eu autant de monde sur la corniche de la Petra Coda. Jamais depuis au moins 27 ans. Ils stationnaient dans le désordre le plus complet, 3 camions de pompiers, 2 ambulances, 4 camionnettes de gendarmerie, un nombre impressionnant de véhicules de touristes coincés sur l'unique route reliant Ajaccio à Calvi. Seuls quelques motos et les sportifs du soir, joggeurs et cyclistes, parvenaient à se faufiler au ralenti, non sans tourner la tête vers le précipice. Des pompiers avaient jeté une échelle de corde et l'assuraient en perçant des prises d'acier dans les rochers. Un zodiaque de la gendarmerie maritime patrouillait dans la crique où Cassanou avait disparu. En vain. L'Arion avait été fermement amarré à l'aide de mains de fer et de chaînes d'acier, complétant les cordages en polyester. Ainsi stabilisé, on avait pu approcher l'échelle de corde, doublée d'un treuil, et lentement, Valentine, Palma remontèrent, encadrés par des secouristes aguerris au sauvetage en hélicoptère sur le GR20. Elles atteignirent la route ainsi escortées, presque obligées de fendre une haie de badauds, de flics et de proches. Reculez, reculez. On drapa la petite fille et sa grand-mère d'une couverture de survie dorée. Tout va bien, avait rapidement diagnostiqué un médecin urgentiste qui ressemblait à Harrison Ford jeune. Mais il avait tout de même insisté pour les transporter jusqu'au centre hospitalier d'Ajaccio. L'ambulance était ouverte, béante. Les brancards avancés, le moteur allumé. Le chauffeur tirait sur son mégot, prêt à démarrer. Palma leva une main fatiguée. Doucement, doucement. Clotilde avait à peine eu le temps d'étreindre sa fille et sa mère avant que les secouristes ne les séparent. Plus tard, madame, plus tard. Nathalie fut le dernier à rejoindre la route par l'échelle de corde, sans treuil ni escorte. Cesare Ugarcia l'aida lorsqu'il parvint au dernier échelon. Une main ferme pour le hisser. Une tape franche dans le dos. Une félicitation physique, virile, presque silencieuse. Bien joué, mon gars. Celle qui suffit aux hommes épuisés qui reviennent de l'exploit, remontent du puits en feu ou quittent le terrain en vainqueur. Franck s'était éloigné de quelques mètres vers les voitures pour apporter à Valentine des habits secs, un pull, un pantalon, des baskets. Aurélia discutait avec Harrison Ford, prenant un air affecté d'infirmière qui gère avec compétence et compassion. Clotilde, sans même l'avoir prémédité, se retrouva face à Nathalie. Moins de 3 mètres les séparaient. Elle le trouva incroyablement sexy, son coupe-vent dont il avait ouvert la fermeture éclair jusqu'au nombril, ses yeux bleus balayés par ses cheveux salés, son sourire de héros tranquille. Un irrésistible besoin de se jeter à son cou la traversa. Un élan spontané, une pulsion naturelle, évidente, de lui hurler « merci, merci, merci » à l'oreille, de lui confier qu'elle avait toujours su qu'il larguerait les amarres, que l'Arion voguerait à nouveau, qu'il n'avait qu'à redescendre l'échelle de corde, mettre les voiles, filer. Sa fille, sa mère étaient sauvées, s'étaient retrouvées. Tout était réglé. Il était temps de partir. Elle fit un pas. L'envie de presser son corps contre celui de Nathalie était bestiale, animale, comme si lui seul possédait ce mélange de force et de calme, capable de tout apaiser. Aurélia laissa en plan Harrison Ford et en fit deux. Franck confia les habits secs de sa fille au premier ambulancier qui passait et en fit 3. Cesare Ugarcia se recula, tel un arbitre de catch qui laisse le ring aux adversaires. « Nathalie !» cria Aurélia. Il ne bougea pas. « Clo !» cria Franck dans son dos. « Clo !» Elle ne bougea pas. « Clo, Valou veut te voir !» Elle hésita. « Elle a quelque chose d'important à te confier. » Le chauffeur de l'ambulance béante avait craché son mégot. Un brancardier avançait. La nuit commençait à tomber. Déjà, les camions de pompiers décampaient. Le zodiaque des flics décrivait des cercles toujours plus larges pour scruter plus loin dans la mer. Le cœur de Clotilde se voilait. Que pouvait-elle faire d'autre? Abandonner sa fille? Elle se retourna. Valou et Palma étaient assises côte à côte, même couverture d'or posée sur les cuisses. Même serviette blanche enroulée sur leurs cheveux, même position voûtée. Leur ressemblance était bluffante. Oui, Valou. Maman, j'ai quelque chose pour toi. Valentine se leva, tituba un peu, et sortit un sac plastique coincé entre ses jambes, sous la couverture. Elle hésita, puis se pencha vers sa grand-mère. « Non, c'est à vous. C'est à vous de lui donner. » La voix de Palma tremblait, peinant à articuler quelques syllabes séparées par de longues déglutitions. « Dis-moi, tu, ou ma, mi. » Elle eut la force de sourire, de recueillir sur ses genoux le mystérieux sac plastique, sans lâcher les mains de sa petite fille. Clotilde s'approcha. Leurs six mains se mêlèrent, tenant ensemble le paquet, le faisant crisser tel un hochet de papier froissé. Palma força encore sa voix. « C'est à toi. » Palma et Valou ouvrirent leurs mains. Elles pleuraient toutes les deux. Clotilde déballa son cadeau, doucement, sans comprendre ce qui pouvait provoquer une telle émotion. Elle devina d'abord par transparence une couleur bleue, délavée, puis sentit à tâtons une forme, rectangulaire. Un livre, souple. Non, pas un livre. Plutôt l'épaisseur d'un cahier. Le sac plastique s'envola vers la Rebellata et personne n'eut le réflexe de le rattraper. Journal de vacances, été 89. L'écriture, sur la couverture du cahier de son adolescence, restait lisible. Elle l'ouvrit avec une infinie précaution, comme un explorateur déplie des feuilles de papyrus trouvées dans la tombe d'un pharaon. Lundi 7 août 1989, premier jour de vacances. Moi, c'est Clotilde. Je me présente parce que c'est la moindre des politesses, même si vous ne me la rendez pas parce que je ne sais pas qui vous êtes, vous qui me lisez. Mon amoureux, le bon, celui que j'ai choisi pour toute la vie, à qui je confierai tremblante au matin de ma première fois le journal intime de mon adolescence. Un connard qui l'a trouvé parce qu'à force d'être bordélique, ça devait bien m'arriver. Des larmes coulaient de plus belle au coin des yeux de Clotilde. Les lettres, les mots, les lignes étaient intactes. Seulement gondolé sur la tranche, jauni dans les coins, déguisant son journal intime en vieux grimoire ensorcelé. Clotilde eut un instant l'impression de se rencontrer elle-même, elle-même il y a 27 ans, comme deux héroïnes d'une histoire racontant deux destins parallèles finissent par se croiser au dernier chapitre. Valou lui lança un regard fier. « Je l'ai sauvée, maman. Je l'ai sauvée. » Elles pleuraient toutes les trois. Un bras enserra sa taille. Une main se posa à la naissance de sa poitrine. Franck. Elle se retourna, effleura le corps de son mari, posa sa tête contre lui. Franck put prendre cela pour un geste de tendresse, mais elle se contentait de regarder par-dessus son épaule. Aurélia s'était blottie contre Nathalie, dans son coupe-vent ouvert, à l'abri. Clotilde, lentement, pressa le cahier contre son cœur.